Bienvenue à tous sur Foximedia. Tout de suite, les gros titres de ce journal avec Gaspard.
Aujourd'hui, nous aurons une enquête sur Loire avec toi, les portraits des G et une chronique d'actualité.
Salut, vous êtes sur Foximedia avec
Gaspard
et Evelyn. On se retrouve pour une interview. Le sujet portera sur le self. Nous avons interviewé des élèves de 6e, 5e et 3e. Tout de suite, les réponses avec Gaspard. Les réponses sont assez diversifiées. Des élèves de 6e et de 5e et de 3e nous ont déclaré « J'aime bien, c'est bon, c'est pas mal ». Assez diversifié, c'est cool et assez de choix. Les réponses un peu plus négatives, la vitesse dans le rang, les tables qui ne sont pas très souvent propres et la disposition des tables.
Merci de nous avoir écoutés. Tout de suite, l'interview de Zoé et Floriane qui ont questionné le personnel du self.
Merci les garçons et nous continuons donc avec l'interview sur le personnel du self. Bonne écoute et à tout à l'heure.
À quoi ressemble une journée type ?
De mon travail en fait.
Oui.
D'accord. Eh bien écoute, moi je commence à 6h en fait et je fais 2h30 de ménage du côté collège. Et après donc à 8h30 je reviens par ici en cuisine et j'ai une pause de 20 minutes et ensuite je reste en cuisine donc avec mes collègues. Et je peux préparer soit des entrées, soit des desserts ou soit en préparation chaud. Donc jusqu'à 11h30. 11h30 on va déjeuner. Et ensuite, on commence le service pour les enfants et les professeurs.
À quelle heure vous levez-vous pour préparer le repas ?
À quelle heure, tu m'as dit ? Je n'ai pas compris.
À quelle heure vous levez-vous pour préparer le repas ?
Ah ben, moi, je commence à partir de 6h. Je me lève à 5h du matin. Et donc après, ben voilà, je dis, on met la mise en place à partir de 10h pour les élèves, entre la vitrine, le salad bar. Nous, on va déjeuner à 11h et puis après, donc on vous sert à partir de 11h30 jusqu'à 13h, 13h30, ça dépend des jours.
Êtes-vous satisfait du comportement des élèves au self ou dans les couloirs ?
Bonne question. Alors, en général, oui, on peut dire que oui. Oui, oui. Sauf qu'il y en a certains qui sont un peu brillants au départ. Il y a un peu de bousculade, il y en a qui se poussent certains. Il y a quelques plateaux de renversés, des verres cassés, mais enfin, en général, ça va. Le comportement est positif, on va dire.
Qu'est-ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas dans ce métier ?
Voilà, je suis jugée après. Ce qui me plaît, c'est la préparation de tout, puis être au contact aussi avec vous, avec mes collègues, avec les enfants, avec les professeurs, vous faire plaisir en espérant que vous déjeunez bien, que la cuisine vous plaît. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était ? Qui me plaît pas ? Moi, je suis pas du matin, donc les horaires ne me plaisent pas. Non, je blague. Non, en général, non, c'est plutôt positif. Donc ça va. Il y a quand même une bonne ambiance, donc non, c'est bien.
Merci.
C'était Sylvie et nous passons à William, le chef cuistot.
À quoi ressemble une journée type ?
De travail, tu parles ?
Oui.
Mais en tant que chef de cuisine ou toute l'équipe de cuisine ?
Toute l'équipe.
Alors, toute l'équipe. Donc, on embauche à 6 heures tous les jours pour réceptionner la marchandise et puis pour commencer à la préparation du menu du jour. Voilà. Donc, après, chaque personne a son secteur, c'est-à-dire au niveau des entrées, au niveau des plats chauds et au niveau des desserts. Voilà.
À quelle heure vous levez-vous pour préparer le déjeuner ?
Il n'y a pas de petit déjeuner. Il y a juste le déjeuner, donc ce que je disais, c'est on embauche tous les jours à 6 heures. Donc si à quelle heure tu me demandes à quelle heure je me lève, donc on se lève à 5 heures tous les jours.
Êtes-vous satisfait du comportement des élèves au self ou dans les couloirs ?
Alors dans les couloirs, j'en sais rien. Au self, oui, en général, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas dans ce métier ?
Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est différent tous les jours, parce que le menu est différent tous les jours. Ce qui me plaît pas, je sais pas. Je sais pas. La longue journée, on va dire. Voilà.
Voilà ce qui conclut notre enquête. Je laisse maintenant la place au portrait de Gégé.
Aujourd'hui, nous allons interviewer
la surveillante Juline. C'est parti.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce métier ?
Je pense que les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est parfois d'être en sous-effectif quand il y a des collègues absents, et ça devient compliqué pour nous d'être un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits dans le collège à surveiller, et on ne peut pas forcément être partout, donc il y a des choses parfois qui nous échappent.
En quoi consiste ce métier ?
Donc, comme son nom l'indique, on fait de la surveillance, c'est-à-dire qu'on va aller surveiller les élèves pendant les temps en fait où ils sont hors de leur cours. Donc, c'est-à-dire les heures d'études, les récréations ou encore quand ils sont en train de déjeuner. Et après, il y a le côté un peu plus administratif où là, on vérifie les absences, les retards. Après aussi, il y a une partie d'accompagnement, on va dire, où on peut être amené à faire de l'aide aux devoirs.
Pourquoi avoir voulu devenir surveillante ?
Je suis étudiante à la fac depuis maintenant 5 ans. Et c'est vrai que sur ma deuxième année, j'ai constaté que je n'avais pas tellement d'heures de cours. Donc je me suis dit que je pouvais aider mes parents financièrement et en travaillant à mi-temps à côté. Et donc le travail de surveillant, qui est quand même un travail réservé aux étudiants, m'a paru convenable.
Trouvez-vous qu'il y a une bonne ambiance à la vie scolaire ?
Il y a une excellente ambiance à la vie scolaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. On est quand même une grosse équipe. On est 11 maintenant cette année. Et ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Et c'est vrai qu'on rigole toujours beaucoup et on s'entend tous très bien.
Quel est votre parcours jusqu'ici ?
J'ai eu mon bac S en 2013 au lycée Victor Hugo. Et depuis, je suis à la fac à Poitiers. J'ai d'abord obtenu ma licence d'anglais l'année dernière et cette année, je suis en première année de master encadrement éducatif.
Qu'aimez-vous dans ce métier ?
Ce que j'aime avant tout, je dirais, c'est la relation avec les élèves. Je pense qu'ils ont plein de choses à nous apprendre et c'est vrai que les surveillants, on a quand même une approche avec eux qui est assez différente des autres personnels de l'établissement et je la trouve plutôt intéressante. Et après, ce que j'aime aussi, c'est le côté donc tout ce qui est accompagnement et monter des projets avec les élèves.
Quel est votre projet pour plus tard ?
Donc avec mon master d'encadrement éducatif, en fait, je suis en train de préparer le concours de CPE.
Et on va passer tout de suite aux questions bonus.
Avez-vous un animal de compagnie ?
J'ai pas d'animal de compagnie, ce qu'à vrai dire, j'ai peur des animaux.
Quel est votre animal préféré ?
Donc même si j'ai pas d'animal de compagnie, je dois dire quand même que j'ai une petite place particulière dans mon cœur pour la licorne.
Est-ce que l'idée du club vous plaît ?
Je suis à l'origine du club, c'est moi qui ai proposé l'idée en début d'année et Virginie et Émilie m'ont suivi sur ce projet, donc j'avoue que c'est quand même mieux si ça me plaît et effectivement après plusieurs mois ça me plaît énormément ce club média.
Merci pour cette interview.
Au revoir.
C'était Clarisse
et Ayumi, et maintenant on vous laisse avec Anaïs.
Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Anaïs Clisson. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter une interview de Madame Diaz, ancienne professeure d'art plastique.
Ok, alors, on voulait savoir pourquoi vous avez fait ce métier.
Alors ça, j'en sais rien. Il y a des choses auxquelles on n'a pas vraiment la réponse. Mais j'ai toujours voulu faire ça. D'abord parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours gribouillé, j'ai toujours mis le bazar chez moi avec des tas de produits, des tas de machins, des tas de papiers. J'étais toujours en train de faire des constructions. Et j'ai trouvé que l'art, c'était important. Je crois que c'est ma mère qui était très intéressée par l'art et qui m'a un petit peu ouvert l'esprit là-dessus. J'ai visité tous les musées qu'il y avait dans ma ville plusieurs fois. Et j'ai toujours souffert qu'au collège, pas à l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, c'était calme, mais qu'au collège, les cours d'art plastique soient un bazar phénoménal. J'ai toujours pu travailler tranquille, hein, parce que, curieusement, les élèves à côté, ils essayaient de ne pas déranger mon travail, mais c'était vraiment insupportable. Je me suis dit que c'était un truc important et qu'il fallait peut-être essayer d'en faire quelque chose. J'ai toujours voulu faire ça.
D'accord.
En même temps, je ne me suis jamais pris pour une artiste. Je pense que je suis un bon artisan, mais j'avais pas de vision pour devenir artiste peintre ou artiste sculpteur. Je sentais que j'avais pas le talent pour ça.
D'accord, merci. Depuis quand ce métier ?
Depuis quand je fais ce métier ?
Oui.
Alors depuis exactement l'âge de 22 ans. Voilà. Ça veut dire que là, je suis dans ma 40e année d'exercice.
Et dernière question, comment évoluent les générations au fil des années?
Alors moi je peux vous donner ma perception au fil des années, en plus c'est globalement beaucoup sur le même collège. Il y a des choses que je ne peux plus faire, ça ne marche plus, il n'y a plus d'enthousiasme pour faire un certain nombre de choses qui demandent du temps. Donc moi ce qui... Je trouve que les générations, par rapport à ma génération, moi, au collège, au lycée, quelque part, c'est plus calme en classe hein, que ce que j'ai pu connaître. Parce que moi, j'ai connu des situations scolaires avec des situations complètement rocambolesques pendant les cours, qui m'arrangeaient bien, parce que s'il y avait le bazar pendant le cours, il y avait moins de travail à faire à la maison. Donc, on est toujours complice de celui qui fouille le bazar, même si on ne le met pas directement soi-même. Mais par contre, je trouve que l'investissement et la capacité de s'investir des élèves dans le travail qu'on leur propose, elle est moins tenace, elle est plus difficile à maintenir dans la durée. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus par rapport aux générations qui arrivent. En plus, les arts plastiques travaillent beaucoup sur l'image, vous êtes submergés d'images partout. C'est devenu quelque chose d'une extrême banalité, sans que vous ayez vraiment conscience de la difficulté de la réalisation d'une image. Toutes celles qu'on voit, elles ont l'air simples, elles ont l'air faciles, elles sont hyper travaillées. Voilà. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est cette perte d'envie et d'enthousiasme par rapport à un travail proposé, quel qu'il soit, même s'il est difficile, ou même s'il est facile. C'est « ouais, on le fait, on se dépêche, ça ira ». Ça, c'est, ça me gêne chez toutes les générations que j'ai vu défiler. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. J'aimerais beaucoup que les élèves comprennent que tout ce qui est offert à l'école comme accès à la culture, c'est important pour la construction, pour la paix, de façon générale dans le monde et pour l'acceptation des autres.
Merci. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Et voilà notre dernière chronique, je vous laisse avec Sam et Nathan.
Salut, c'est Sam et Nathan. Aujourd'hui, on va vous parler des jeux vidéo et de leurs conséquences.
Les jeux vidéo, c'est dangereux. Sur la santé, cela peut provoquer une déformation osseuse, le pouce écrasé, et crise d'épilepsie ou encore le risque de devenir addict. De plus, les jeux vidéo peuvent entraîner une fatigue importante et des douleurs diverses aux mains, bras et dos. Les cures de désintoxication sont de plus en plus fréquentées par les addicts de jeux vidéo. Ils ne savent plus faire la différence entre le réel et le fictif.
Oui, mais ça peut avoir des avantages aussi. Les jeux vidéo permettent le développement cognitif si on y joue régulièrement. C'est également conseillé aux personnes âgées ayant la maladie d'Alzheimer. Les jeux vidéo peuvent être considérés comme un défouloir. Ils peuvent favoriser les réflexes, l'attention visuelle et la notion de repérage dans l'espace. De plus, ils peuvent améliorer la capacité à faire plusieurs choses simultanément, ainsi qu'améliorer l'esprit de déduction et d'ingéniosité.
Les jeux vidéo comportent des points négatifs et des points positifs. Encore une fois, tout est question de modération. C'est fini pour nous, à une prochaine fois!
Voilà qui conclut notre émission. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Foxy Media.